ça va mieux. Le président de la République le dit et le répète inlassablement depuis le mois d'avril, mais ça ne prend pas. Est-ce à dire qu'il y aurait un sentiment de précarité, comme on a pu parler d'un sentiment d'insécurité, qu'il suffirait de mieux communiquer pour faire apparaître un réel bien différent du ressenti des Français? Le calcul est politiquement dangereux, on a pu le voir par le passé. Pourtant, les chiffres sont là, et bien là, et ils devraient encore être largement commentés cette semaine. Dès demain, avec l'annonce des résultats sur le front du chômage pour le mois d'août, et mercredi avec l'examen en Conseil des ministres du budget pour 2017. Le terrain a d'ailleurs déjà été préparé, annonce d'une baisse continue du chômage en 2017 par l'UNEDIC, annonce d'un déficit ramené au-dessous des 3% et d'une croissance à 1,5 point par le ministre de l'économie Michel Sapin, annonce enfin d'une réduction du trou de la Sécu qui aura disparu en 2017, assure la ministre des Affaires sociales et de la Santé, Marisol Touraine. Alors, est-ce que ça va vraiment mieux? Et si oui, comment faire pour que ça aille vraiment bien? On posera la question à l'économiste Éric Heyer et à la sociologue Dominique Méda. Et en fin d'émission, on prendra la direction de Londres pour analyser les suites de la réélection hier de Jeremy Corbyn à la tête du Labour avec 61,8% des suffrages. Une claque pour son adversaire Owen Smith et pour les députés travaillistes qui ont œuvré à se débarrasser d'un leader jugé trop à gauche. Un modus vivendi peut-il être trouvé par les travaillistes lors du congrès de Liverpool qui se tient jusqu'au 28 septembre? Le journaliste du Guardian John Henley nous apportera ses lumières sur cette question.
Dimanche et après, Raphaël Bourgois.
Ça va mieux. Donc ça va mieux. Moi, ce que je veux, c'est que ça s'améliore pas dans les chiffres, ça s'améliore dans la réalité. Donc ça va mieux. Regardons les chiffres et sans les multiplier. La croissance, ça va mieux, puisque quand je suis arrivé aux responsabilités, c'était zéro. Ça va mieux.
Qu'on offre une formation aux chômeurs, tant mieux. Est-ce que ça résoudra le problème du chômage? Non.
Ça va mieux.
Le problème de la France, c'est qu'on n'est jamais content. Il y a des mesures qui ne sont pas inintéressantes, évidemment, dans ce plan. Le plafonnement des indemnités de licenciement, par exemple, est une mesure intéressante.
Donc ça va mieux.
Le premier problème français, c'est que le montant de nos dépenses publiques est trop élevé. Donc on peut revenir artificiellement à 3% de déficit en vendant les bijoux de famille, ça ne résoudra pas le problème économique français.
Tout n'est pas parfait.
Ça va mieux.
Mais tout n'est pas mauvais.
Donc ça va mieux.
Il voit moins un plan d'urgence pour l'emploi qu'un plan de sauvetage de François Hollande pour 2017.
Ça va mieux également en termes de création nette d'emplois. Donc ça va mieux.
Et voilà, un petit montage avec le sourire du réalisateur Philippe Baudouin. Vous aurez reconnu François Hollande, Bruno Le Maire, Stéphane Le Foll, Benoît Apparu, Nicolas Sarkozy, Jean-Christophe Cambadélis et enfin Marion Maréchal Le Pen. Se demander si ça va vraiment mieux. Éric Heyer, vous avez signé l'introduction de ce livre, L'économie française 2017, un petit livre dans la collection Repères, sous le titre, par l'OFCE, donc. Voilà, L'économie française en 2017, un livre qui fait à la fois le bilan et qui est un livre aussi un petit peu prospectif. Et donc, vos lumières nous seront tout à fait nécessaires pour savoir si ça va mieux. Dominique Méda, vous êtes sociologue. Bonjour, merci d'être là avec nous ce soir. On peut lire de vous, Einstein avait raison, il faut réduire le temps de travail. C'était écrit avec Pierre Larouturou et on citerait également un autre ouvrage, Faut-il attendre la croissance? C'était avec Florence Jani-Catrice et publié à la Documentation française, deux livres de cette année, La croissance, l'emploi, deux sujets évidemment qu'on abordera au cours de cette émission. Alors Éric Heyer, une question toute simple pour commencer, ça va vraiment mieux?
Oui, je pense qu'on peut dire que ça va mieux, parce que quand on dit ça va mieux, derrière c'est que ça va pas bien. Vous voyez, sinon on dit ça va bien. Donc effectivement, on est malade, on avait 40 de fièvre, et maintenant on est tombé à 39,5. Donc on est encore malade, mais ça va un tout petit peu mieux. Alors après, il faut aussi dire, ça va mieux par rapport à quoi et par rapport à qui, c'est-à-dire, et par rapport à quand. C'est-à-dire que ça va un tout petit peu mieux depuis 18 mois. C'est-à-dire que globalement, ce qu'on peut voir dans les chiffres de la comptabilité nationale, c'est que dans un premier temps, le quinquennat de François Hollande au sens large, quand même s'il y a eu des changements de Premier ministre, il y a eu une dégradation de la situation, avec une forte augmentation du chômage, tout de même, dans un premier temps, et avec une croissance économique qui a été complètement nulle, enfin, proche de zéro pendant quelques temps. Et c'est vrai que depuis 18 mois, ça va un tout petit peu mieux. C'est qu'effectivement, le chômage commence à baisser. On n'a toujours pas retrouvé les niveaux du début de quinquennat. Donc, vous voyez, si on avait pris comme référence le début de quinquennat, on ne pourrait pas dire « ça va mieux ». Mais c'est vrai que depuis 18 mois, l'économie française recommence à créer des emplois. On pourra s'interroger sur la qualité des emplois créés, mais en tout cas, il y a des emplois et donc le chômage baisse légèrement. Donc encore une fois, ça va mieux. Je pense que c'est une bonne expression parce que ça veut encore dire qu'on est extrêmement malade.
Dominique Méda, ça pose la question aussi, cette question du ça va mieux, de savoir ce qu'on regarde, Eric Ayer le dit, ce qu'on regarde comme indicateur véritablement. C'est-à-dire comment on mesure une politique économique finalement?
Ça c'est une bonne question. Mais Eric Ayer a parlé d'une sorte de frémissement. C'est vrai que on doit regarder la croissance du PIB, etc., même si c'est un indicateur qui est quand même extrêmement critiqué et critiquable. Mais il faut regarder aussi tout ce qui s'est passé sur, je dirais, la qualité de vie sociale, en quelque sorte. Or, il me semble que là, depuis quelques années, on assiste à une véritable dégradation de la condition salariale, avec évidemment le chômage, et notamment un chômage de longue durée qui s'est complètement enquisté, une explosion du chômage des seniors, mais aussi une dégradation des conditions de travail. Il faut être toujours plus performant au travail, les gens le supportent de moins en moins bien. Un chiffre intéressant, hein, c'est que vous avez 52% des gens qui disent qu'ils considèrent qu'ils ne pourront pas faire le même travail à 60 ans. Donc une pression du travail extrêmement forte. Un appauvrissement aussi. Hein. Plus d'un million de pauvres entre 2008 et aujourd'hui. Donc voilà, tout ça se passe sur fond de dégradation. Et moi, j'ai l'impression, pour revenir aux indicateurs, qu'on n'a pas pris conscience du fait qu'il fallait s'engager dans des changements radicaux. Par exemple, en effet, s'engager dans la reconversion écologique. Et donc, sans doute changer d'indicateur.
On y viendra, évidemment, Dominique Méda, sur ces solutions, peut-être ces changements. On va quand même continuer à faire un petit peu l'état du malade, puisque c'est comme ça que Eric Ayer a commencé. Voilà, on a commencé à lui donner un peu de Doliprane pour faire baisser la fièvre. On va voir si on peut faire en sorte qu'il aille vraiment bien, ce malade. La question des chiffres, évidemment, est importante. C'est-à-dire, est-ce qu'on juge une mesure à l'aune des objectifs fixés? À ce moment-là, François Hollande, en termes de, par exemple, de déficit des finances publiques, de chômage, compétitivité des entreprises, qui étaient des marqueurs forts qu'il avait indiqués dès le début de son quinquennat, bah, il aurait plutôt réussi, Eric Ayer.
Oui, c'est vrai. Il y avait en fait trois objectifs au début. Il y avait effectivement restaurer la compétitivité des entreprises. Il y avait aussi revenir à l'équilibre des finances publiques et inverser la courbe du chômage. Hein. C'était les trois objectifs. Alors, on peut dire qu'effectivement, sur ces trois objectifs, il n'a pas atteint complètement son objectif premier, c'est-à-dire qu'il fallait arriver à zéro déficit en 2017, il n'y arrivera pas. Il fallait restaurer la compétitivité, la balance commerciale et encore déficitaire. Mais on peut considérer que ça va quand même un tout petit peu mieux. C'est-à-dire que les déficits, rappelons-le, lorsque en 2012, les déficits publics étaient de l'ordre de 5 points de PIB, 4,8 exactement, ils devraient s'établir aux alentours de 3 points en 2017. Donc il y a bien une baisse du déficit, moins qu'anticipée, mais une baisse. Et donc là, on peut lui faire crédit. Et pour la compétitivité, même si la balance commerciale n'est pas excédentaire, les marges des entreprises se sont restaurées et on peut penser qu'une fois que les entreprises ont restauré leurs marges, eh ben, on va regagner en compétitivité. Le problème de tout cela, c'est que ça s'est fait sur le dos des ménages. C'est-à-dire que globalement, on s'est dit, on va restaurer les déficits et on va faire un transfert, enfin, il va falloir aider les entreprises à peu près 40 à 45 milliards. Mais comment fait-on pour donner 45 milliards aux entreprises si ce n'est pas l'État qui le fait? Ben, c'est donc le troisième agent, les ménages. Et donc, on a fait un transfert massif de revenus des ménages vers les entreprises. Et donc ça a provoqué une perte de pouvoir d'achat assez conséquente en moyenne pour les ménages. Et donc, qui dit baisse du pouvoir d'achat, dit baisse de la consommation, baisse de la croissance, baisse de l'emploi et donc augmentation du chômage. Donc là, pour le coup, il n'y avait pas de secret. Et je pense qu'il y a eu une erreur massive au début du quinquennat, c'est penser qu'on pouvait réduire les déficits de façon très rapide et de transférer aux entreprises sans que c'est une conséquence sur la croissance et sur l'emploi.
Ça appelle, Eric Ayer, juste pour préciser encore un petit peu votre pensée, à faire une comparaison avec aussi nos voisins européens. C'est-à-dire, quand on dit ça va mieux ou ça va bien, quand vous dites il n'a pas réussi à atteindre tous ses objectifs, il faut se demander aussi si nos voisins européens, eux, pendant ce temps-là, ont réussi à mieux se redresser, puisqu'on parle aussi, vous le dites dans ce petit livre, L'économie française 2017, on parle d'une situation inédite depuis les années 30, c'est-à-dire une crise économique véritablement. Voilà, ça, on ne peut pas, exonérer François Hollande. Enfin, on ne peut pas dire que François Hollande n'ait pas vécu une situation particulièrement critique sur le plan de l'économie.
économie. Oui. C'est vrai que la crise donc, de 2008, c'est une crise mondiale. Donc, en tout cas, dans les pays développés, on voit l'effondrement. Mais il y a eu une deuxième crise en Europe, c'est la crise de 2011. Et donc, effectivement, qu'on ne voit pas au Royaume-Uni, qu'on ne voit pas aux États-Unis, qu'on ne voit pas au Japon, on le voit que dans un seul endroit au monde, une seule zone au monde, c'est la zone euro. C'est parce qu'on a fait un choix en zone euro, un choix collectif. Hein. Alors, peut-être qu'on peut dire que les Allemands étaient leaders dans ce choix-là, mais en tout cas, on l'a accepté. Et on s'est dit, en 2011, il faut à tout prix, maintenant, réduire tous ensemble et très vite les déficits publics. Et ça, bon, voilà, on peut faire des erreurs, en économie, c'est pas une science exacte, mais on a un retour sur cette expérience qui était une catastrophe. C'est-à-dire qu'y compris le FMI qui prenait cette politique-là, en 2013, le chef économiste Olivier Blanchard a dit, bon, on s'est trompé sur la façon de faire et surtout sur l'incidence de ce choix sur la croissance économique et donc sur les déficits. Si vous cassez votre croissance économique, vous cassez vos recettes et donc vous cassez... Et donc, du coup, on peut considérer que Hollande est arrivé là-dessus, vous voyez, parce qu'il est arrivé en mi-2012. Le mea culpa du FMI, c'est début 2013. Donc, vous voyez, les choix étaient déjà... Il y avait un budget voté, en tout cas, et ce budget, il est catastrophique. Après coup, hein, on peut toujours dire à l'époque, les experts disaient non, allez-y, faites de l'austérité, ça ne cassera pas la croissance. Mais aujourd'hui, après coup, on se dit, quelle erreur de diagnostic. Et le problème, sans doute, c'est de ne pas avoir corrigé cette erreur plus vite. Et donc, on reste dans une situation, effectivement, depuis 2014, la France fait moins bien que ses partenaires. C'est la première fois que ça arrive depuis 20 ans. Et donc ça, c'est effectivement...
Mais ce que vous dites là, Eric Ayer, on a l'impression que, c'est vrai que c'est un discours qu'on entend beaucoup. Pourtant, il ne semble pas entendu, au moins, je pense à une interview, par exemple, de Pierre Moscovici, cette semaine, le commissaire européen, qui disait on ne peut pas s'exonérer des 3%, des fameux 3% de déficit. Bon, il commentait les programmes des candidats à la primaire Les Républicains, dont certains, comme François Fillon, disent non, on peut aller jusqu'à 4%. 7, à partir du moment où ça permet de relancer l'économie. Je tourne vers vous, Dominique Méda. On voit que, malgré tout, et ça interroge sur la façon dont les politiques se saisissent des outils économiques, des totems presque, et peut-être des tabous aussi en la matière. Comment expliquer que c'est, même s'il n'y a pas de vérité en économie, il y a quand même, on peut quand même, quand il s'agit de faire l'analyse, savoir exactement ce qui s'est passé, comment on explique que ça ne passe pas?
C'est vrai que les sociologues travaillent beaucoup là-dessus, sur ce fétichisme des chiffres. Et l'affaire du 3%, le déficit est du 3% du PIB, on en a beaucoup, beaucoup parlé. C'est vrai qu'il pèse sur nous comme une chape. Et ce qui est très intéressant, c'est que tout se passe comme si la gauche, enfin ce gouvernement de gauche, avait été en complet décalage. C'est-à-dire qu'il a voulu se comporter comme un très bon élève, sans doute par peur de mal faire, d'être critiqué par la droite, qui poussait aussi à ça. Et puis on se retrouve aujourd'hui avec une situation, comme disait Eric Ayer, en effet, où d'une part, la droite pousse les feux et dit bon, on s'en fiche complètement de ce, après tout, de ce chiffre, il n'a aucun intérêt. Et puis, à un moment où, alors il y a le FMI lui-même, l'OCDE, mais moi j'aime beaucoup cet article publié par le département de la recherche du FMI, par trois économistes, en mai 2016, qui nous dit, qui va encore plus loin, c'est un petit peu des hétérodoxes au sein de l'orthodoxie, de ce temple quand même.
On en trouve même au FMI.
Voilà, et cet article nous dit une chose qui nous fait tomber de notre chaise quand même, c'est que la libre circulation des capitaux, donc en France, 86 et tout ça, et les politiques d'austérité ont détruit nos sociétés. Donc, qu'on a fait, en gros, que ce qu'on a appelé le consensus de Washington, c'était quelque chose d'absolument...
On a surestimé le côté bénéfique du néolibéralisme. C'était le titre, je crois, du...
C'était néolibéralisme oversold. Donc, est-ce qu'il est survendu? Et donc, ils disent, oui, il est complètement... On s'est complètement planté, mais pas seulement quelques-uns. Je veux dire, ils nous ont entraînés, les Milton Friedman et compagnie.
C'est le FMI qui le dit, encore une fois. Pourquoi est-ce que ça ne passe pas pourquoi ça ne crée pas un consensus politique?
C'est passionnant. Mais de même qu'on a beau critiquer, je crois que maintenant tout le monde est d'accord pour dire que le produit intérieur brut, ce n'est pas un bon indicateur, mais personne n'avouera jamais que rechercher la croissance pour la croissance, ce n'est pas bien. Donc c'est vrai qu'on a, quelque chose de... Et puis un jour, vous savez qu'un jour ça va se retourner. C'est comme ça. Un jour ça va se retourner et on va, choisir un autre indicateur, jeter le pivot sorti, j'en sais rien. Mais ce sont des espèces d'histoires comme ça, culturelles. J'attends avec impatience ce moment.
Eric Ayer, on ne choisit pas la croissance pour la croissance. La croissance, c'est aussi de l'emploi, par exemple. Enfin, je veux dire, il y a quand même une logique dans tout ça, rassurez-moi.
Oui, alors, non, mais c'est sûr que c'est plus facile de créer des emplois quand on a de la croissance économique. Donc, effectivement.
Mais ce n'est pas le seul moyen, peut-être.
Non, ce n'est pas le seul moyen. Et vous voyez que même même aujourd'hui, si vous regardez les débats anglo-saxons, on parle beaucoup de stagnation séculaire. C'est-à-dire qu'on nous explique que globalement, à court terme, on peut encore faire un peu de croissance économique, mais que globalement, sur le moyen-long terme, il n'y aura plus de croissance économique dans les pays développés. Alors, il y a toujours deux théories. Il y a toujours la théorie du côté de l'offre et de la demande. Pour certains, c'est Robert Gordon, il nous explique très clairement que c'est parce qu'on n'a pas de rupture technologique suffisamment importante aujourd'hui, donc qui pourrait nourrir la productivité de demain et donc la croissance d'après-demain.
Mais remettant en cause les espoirs nés par exemple par les nouvelles technologies de l'information et de la communication.
Et donc ça, c'est pas une rupture suffisante pour faire la croissance de demain. Et puis vous avez aussi du côté de la demande, c'est plutôt Larry Summers, pour simplifier, qui vous explique plutôt que c'est les inégalités croissantes qui font que globalement, pour la faire très simple, les plus modestes arrêteront de consommer. Et donc, s'ils arrêtent de consommer, ben, il n'y a plus de croissance, il n'y a plus pour nourrir cette offre. Et donc, du coup, ça, ce n'est pas nouveau. C'est le capitalisme moderne qui creuse les inégalités. Et donc, dans les années 80-90, on a endetté ces classes modestes pour qu'elles continuent à consommer. On est allé au prime, puis les subprimes. Et 2008, c'est bien ce problème-là. Et puis, depuis 2008, c'est plutôt les banques centrales qui essayent d'alimenter avec des politiques très expansionnistes justement le crédit et donc cette demande, mais que ce n'est pas viable non plus, ça crée des bulles. Et donc ces économistes vous disent, ben, si vous ne réglez pas les problèmes d'inégalité, et puisque c'est assez difficile à régler à court terme, ben, ça va avoir un impact sur votre croissance. Et donc s'il n'y a plus de croissance, ben, si vous voulez créer des emplois sans croissance économique, ben, la réduction du temps de travail est une possibilité, en tout cas, dans ce cas de figure.
Ce n'est pas Dominique Méda qui va dire le contraire, n'est-ce pas Dominique Méda? Alors c'est vrai que vous parliez tout à l'heure de dégradation sociale, on peut parler aussi de dégradation du pouvoir d'achat. Eric Heyer a rappelé que les mesures, notamment fiscales, prises par le gouvernement, enfin par les gouvernements successifs sous François Hollande, ont pesé très lourdement sur les ménages, même si Michel Sapin a dit cette semaine que, en fait, on n'était pas dans un niveau de prélèvement qui était supérieur en 2016 qu'il ne l'était en 2016. Bon, oui. Ça, c'est les chiffres.
Oui, il faut faire attention entre l'impôt sur le revenu et les déciles, mais bon, globalement, les prélèvements obligatoires sur les ménages au sens large ont augmenté.
Bref, on a ces deux dégradations, dégradation sociale, dégradation du pouvoir d'achat. Est-ce que c'est pas ça aussi, Dominique Méda, qui empêche, on va dire, les Français de se rendre compte que ça va mieux?
Ah bah oui, mais faut voir que certaines personnes ont été atteintes plus particulièrement, et qu'il y a un désespoir. Je pense notamment à cette question centrale des classes populaires. Hein. Vous vous souvenez quand à un moment un des think tanks de gauche a dit que en fait finalement c'était plus les classes populaires qui intéressaient.
Ils sont revenus pour leur rendre justice. Absolument. Ils sont revenus sur cette idée.
Oui, mais je ne sais pas si une partie importante de la gauche n'est pas restée sur cette idée. Finalement, il y en avait peut-être plus tant que ça des classes populaires. Or, il y a encore énormément d'ouvriers, il y a encore énormément d'employés, et c'est ces gens-là quand même qui en ont pris plein la figure, notamment avec toutes les grandes fermetures d'entreprises. Et ça, je crois que c'est un reproche aussi qu'on peut faire à ce gouvernement de gauche, hein, c'est de peut-être de ne pas avoir pris la mesure de la pression qu'on fait peser sur le tissu productif français, ces grandes entreprises multinationales qui s'amusent finalement à mettre toutes les législations du droit du travail national en compétition les unes avec les autres, et qui quittent les territoires en les martyrisant, en les laissant, en les abandonnant complètement. Et là, je pense que des choses auraient pu être faites et n'ont pas été faites. Hein, proposition de loi sur le devoir de vigilance et ce genre de choses.
On va en reparler tout de suite.
France Culture, dimanche et après. Raphaël Bourgois.
Ça va mieux, comment faire pour que ça aille vraiment bien? On en discute avec Eric Heyer qui est économiste et Dominique Méda qui est sociologue. On a fait, on va dire, un premier état des lieux assez conceptuel de la situation économique aujourd'hui de la France. J'aimerais bien qu'on rentre un petit peu dans, on va dire, le corps du bilan de François Hollande et de ce qui pourrait être fait, par exemple, en s'attachant, comme vous l'avez fait Eric Heyer dans ce petit livre, sur l'économie française en 2017, à certains éléments forts de la politique économique de François Hollande. On peut penser au crédit d'impôt compétitivité, le fameux CICE, ou au pacte de responsabilité. Voilà deux mesures fortes du quinquennat, deux mesures économiques, qui faisait le pari, comme vous l'avez dit, d'alléger les charges, même si bon, le terme est à prendre avec des pincettes, bref, d'alléger le coût du travail, donc une politique de l'offre, non pas une politique de la demande. Est-ce que ça a marché? Et est-ce que c'est un bilan plutôt positif en l'occurrence?
Alors, est-ce que ça a marché? Alors, il y aura un bilan officiel de cela qui est réalisé par France Stratégie et il doit sortir à la fin du mois. Donc, vous voyez qu'on peut, aussi attendre. Nous, on en a fait un avec notre propre moyen. Quelle est notre idée sur ce bilan? C'est-à-dire que globalement, que les entreprises en 2012 aient été dans une situation délicate, avec des taux de marge extrêmement faibles, c'était une réalité, effectivement. Et donc, on pouvait penser qu'effectivement, il fallait les aider. Et vous voyez que si vous n'aidez pas les entreprises, une façon pour elles de restaurer leur marge, c'est de licencier encore plus, c'est de faire de la productivité. Et donc, effectivement, on pouvait penser que les aider, ça pouvait permettre d'arrêter les licenciements économiques. Et donc, ça, c'était plutôt une bonne chose. Et donc, les aider par les cotisations, c'est la façon la plus simple de le faire, effectivement. Et notamment, une cotisation sur les bas salaires, on sait que c'est ça qui permet, à court terme, en tout cas, de limiter le plus la casse en termes d'emploi. Donc, c'est ce qui a été fait. Alors, le problème... on peut considérer que ce n'était pas une grosse vision de très long terme. Un crédit d'impôt sur l'investissement aurait été sans doute préférable, écologique aurait été préférable. On pourra rentrer tout ça. Mais je pense que l'erreur, ça a été de se dire, on va aider les entreprises, mais on va demander aux ménages de financer cette aide. Et vous voyez que pourquoi c'était une erreur.
D'autant plus que ce qui apparaît, c'est que les entreprises ont thésaurisé ces marges. Elles n'ont pas utilisé forcément pour réinvestir.
Ça fait partie de l'erreur. C'est-à-dire que globalement, on sait que quand on fait une politique de l'offre, même quand elle est bien ciblée, qu'elle est parfaitement calibrée, ça met du temps avant de mordre sur l'activité. Et donc on sait qu'on n'aura pas des résultats tout de suite grâce à cette politique de l'offre. Et
donc faire... Donc c'est quand même un peu une politique de long terme. On reproche toujours aux hommes politiques de faire des politiques
de long terme.
Alors
là, c'est du moyen long terme. C'est pas vraiment une politique... Vous voyez, quand vous aidez des bas salaires, c'est intéressant hein, parce que ça vous crée un peu plus facilement l'emploi, mais ça vous fait des emplois plutôt... bassement qualifié, alors qu'on peut penser qu'il faudrait qu'on monte en gamme, qu'on ait, en tout cas, une vision industrielle un peu plus forte. Mais bon, laissons ça de côté. Je pense que la principale erreur, ça a été de dire, on va le financer tout de suite et très rapidement par les ménages. Et en plus, on va demander à ces ménages de financer aussi le déficit supplémentaire, enfin, la baisse du déficit. Et donc, le choc de demande, contrairement à un choc d'offre, un choc de demande, ça a un effet immédiat sur votre activité. Quand vous augmentez la TVA, comme ça a été le cas en 2014, tout de suite, les ménages se voient amputés du pouvoir d'achat. Donc, tout de suite, la consommation chute. Donc, tout de suite, la croissance ralentit. Donc, tout de suite, l'emploi baisse. Et ça a été ça, le problème. Ça a été d'avoir financé un choc de court terme de demande négative pour un choc de long terme. Et donc, c'était pas étonnant que finalement, la croissance en France ralentisse d'un coup et qu'on ait des performances plus faibles que nos partenaires européens qui ne sont pas lancés dans cette stratégie-là. Et donc, pour moi, c'est ça la principale erreur en tant que conjoncturiste. Ensuite, en tant qu'économiste ou de moyen terme, il fallait avoir une autre vision que cette idée de juste on va baisser les cotisations sur les bas salaires et tout ira mieux plus tard.
Dominique Ménard.
Oui, moi je pense aussi que cette autre vision a manqué. Alors si on était un peu idéaliste, ou si par exemple si on était au pouvoir, Eric Heyer et moi, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait lancer un grand programme de réduction du temps de travail. D'abord, accepter cette idée que peut-être que la croissance ne reviendra pas, et peut-être que ce n'est pas souhaitable qu'elle revienne, parce que maintenant c'est de plus en plus clair qu'elle entraîne des dégradations environnementales majeures, et donc on risque de devoir s'en passer. Une fois donc cela étant posé, comment on fait pour avoir malgré tout de l'emploi sans croissance? On peut partager le travail, mais pas le partager n'importe comment, pas le partager en faisant des petits boulots, des tout petits contrats, ce qui s'est quand même passé en Allemagne, avant qu'il y ait le nouveau salaire minimum, etc. Donc, d'une part, un grand programme de réduction du temps de travail, une reconversion écologique, donc un changement complet de paradigme. Ça veut dire des mécanismes de sécurisation puissants pour que les personnes puissent passer d'un métier à un autre. Ça veut dire une politique industrielle très développée, notamment sur toutes les filières, l'énergie renouvelable, l'agriculture biologique, etc. Et un programme de formation et de requalification massif, précisément pour aider les personnes d'aller d'un emploi à un autre. Vous voyez, donc tout ça, c'est de l'investissement. Ça coûte bien sûr un peu d'argent, mais je pense que c'est intéressant.
Alors, il y a des programmes alternatifs à celui que vous venez d'énoncer, Dominique Méda. C'est ceux qui sont présentés notamment par les candidats à la primaire Les Républicains, qui, eux, sont plutôt, on va dire, dans la baisse des dépenses publiques, par exemple, qui peuvent proposer, comme Nicolas Sarkozy, de complètement baisser la pression, ce qu'il appelle la pression fiscale, puisqu'il n'y a pas de vérité en économie, Eric Heyer. Il y a d'autres solutions. il y a d'autres logiques possibles peut-être pour la France et pour...
Oui, la logique des LR, elle est globalement homogène, même s'il y a des
Et puis elle correspond mieux à ce qui se passe en Europe aussi, puisque vous parliez du contexte, contexte européen.
Alors, oui et non. C'est-à-dire que globalement, pour moi en tout cas, lorsque je lis ces programmes, je vois deux axes. Le premier axe, c'est une baisse d'impôts, effectivement, et une baisse d'impôts plutôt pour les entreprises que pour les ménages.
Donc ça continue.
Donc ça continue, effectivement. Et une augmentation du temps de travail. Donc globalement, il y a tout de même cette idée qu'il faut augmenter le temps de travail. Alors c'est assez curieux parce que vous voyez, il y a un livre qui est sorti et qui nous indique que toute variation de la durée légale n'a aucune incidence. Et donc ceux qui prônent les 32 heures sont les négationnistes. On pourrait dire, donc du coup, les négationnistes sont aussi ceux qui prônent les 32 heures.
Vous parlez du livre de Pierre Cahuc et Zilberberg sur le négationnisme économique.
Oui, donc curieusement, c'est plutôt ceux qui prônent les 32 heures qui sont considérés comme négationnistes, alors qu'on pourrait dire que ceux qui prônent les 39 heures, dans ces cas-là, sont aussi négationnistes, puisque pour ces auteurs-là, il n'y a aucune incidence. La durée légale n'a aucune incidence. Le troisième point, c'est qu'il y a cette idée que toute dépense publique serait nocive et qu'il faudrait vraiment faire une coupe de 100 milliards. Pourquoi 100 milliards? On ne sait pas trop, parce que globalement...
Parce que c'est le double de 50 milliards, ce qu'a fait François Hollande.
Parce que c'est le double.
François Hollande.
Vous voyez, ça, même en étant... imaginons que la baisse de cette dépense publique n'ait aucune incidence sur le PIB, imaginons, mais je ne sais pas du tout mon point de vue, ça ne permettrait pas, comme le disent ces candidats, de revenir à la moyenne des pays européens. Et surtout, on ne comprend pas quel est le modèle social qui est derrière. C'est-à-dire que si on veut faire 100 milliards comme il le réclame, ça veut dire que c'est pas sur l'État qu'on peut jouer, parce que l'État, aujourd'hui, on ne trouverait pas 100 milliards. C'est pas non plus sur les collectivités locales, c'est que sur le modèle social. Et donc, il faudrait qu'il nous explique quel est le modèle social de demain. Mais ça pourrait être une base de discussion intéressante. Vous voyez, jusqu'où on doit aller dans le remboursement de la maladie, quel le système de retraite, quelle est la part publique-privée, pourquoi pas en discuter. Mais vous voyez, partir du principe que toute baisse de la durée toute baisse de la dépense publique est positive, c'est une erreur grossière.
Prenons un autre exemple concret, si vous le voulez bien, c'est celui d'Alstom. Ça a été dit dans le journal tout à l'heure, ça va être une semaine décisive pour Alstom la semaine prochaine, pour sauver ou non l'usine de Belfort. Ça pose la question évidemment plus largement de la politique industrielle de la France. Ça fait des années qu'on dit, droite et gauche confondues, qu'il n'y a plus de politique industrielle en France. La question de la possibilité d'une réindustrialisation. Cette semaine, Patrick Artus, qui est l'économiste en chef d'Natixis, a publié une petite note sur la réindustrialisation de la France impossible, selon lui. C'est-à-dire réindustrialiser, ça suppose soit baisser les coûts, soit élever le niveau de gamme des produits français. Ni l'une des solutions ne sont possibles, selon lui, baisser les coûts parce que c'est inacceptable socialement, élever le niveau de gamme des produits français parce qu'on n'a pas fait les investissements nécessaires. Dominique Méda, est-ce qu'il faut dire adieu à notre industrie en France?
Non, je crois pas du tout. Alors, je dirais pas n'importe quelle industrie. Je crois qu'on doit développer une industrie comme, on l'a dit tout à l'heure, hein, autour des renouvelables, le fret, enfin des choses comme ça, qui sont plus tellement à la mode. Mais là, je pense que la clé, c'est l'Europe quand même. C'est-à-dire que il faut absolument d'abord qu'on règle le problème du dumping social à l'intérieur de l'Europe, qu'on ait des politiques coordonnées, qu'on fasse des grands projets tous ensemble. Autour de la reconversion écologique, il y a vraiment des choses à faire ensemble. Et puis sans doute qu'on se protège un peu mieux, en effet, des autres grands continent et des multinationales qui s'amusent à venir capter de la valeur tout en dégradant, hein, je pense à Uber et compagnie, ils viennent quand même utiliser notre...
Uber, c'est un service, c'est pas de l'industrie.
Non, d'accord, tout à fait. Non, mais je raisonnais en effet
en
termes de protection. Hein, c'est-à-dire, on a quand même des entreprises qui viennent se servir du travail français et qui ne le rémunèrent pas à sa juste valeur et qui surtout essayent d'échapper à toutes les obligations afférentes au salariat. Donc là, il y a quelque chose qui ne va absolument pas et en effet, je pense qu'il est très très urgent de prendre des mesures. Mais voilà, je pense que le bon niveau, c'est malheureusement le niveau européen.
Ça, c'est le contexte international. Évidemment, il est difficile de s'extraire de ce contexte international, Éric Ayer, mais malgré tout, si on parle de la France et de la politique industrielle possible en France, est-ce que le cas d'Alstom, comme on l'a dit, c'est véritablement l'exemple, voilà, de l'échec ou de l'absence de politique menée ces dernières années en matière industrielle?
Il y a sans doute trace d'erreurs dans le cas Alstom de politique économique, mais vous voyez, Alstom a aussi tout de même des réussites à l'extérieur. Enfin, on arrive à vendre des TGV ou en tout cas des trains à grande vitesse ailleurs dans le monde. Aujourd'hui, par contre, quand on les vend, il faut les produire sur place. Et donc, on voit bien que le problème d'Alstom aujourd'hui, c'est pas Alstom en tant que quantité, mais en tant qu'Alstom lorsqu'il produit en France. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on peut aussi se poser la question, c'est pas grave finalement que ce soit Bombardier, un concurrent qui produise en France, pourvu qu'on produise en France. C'est-à-dire que ce qui manque, c'est de la commande publique. Oui. Et donc, à partir du moment où vous avez de la commande publique, bon, que ce soit Alstom ou Bombardier qui produisent ces trains, puisque maintenant on doit produire en France, enfin on doit produire dans l'endroit où il y a la commande, aux États-Unis.
On doit, c'est-à-dire
C'est globalement, quand vous passez des grands contrats.
C'est une convention
Oui, c'est des grands contrats. On arrive à gagner les contrats en promettant de produire dans le pays qui émet le contrat. Donc, vous voyez, quand Alstom a gagné le Boston, New York,
aux
États-Unis, ils sont engagés à produire là-bas. Quand Bombardier gagne des parts de marché en France, ils doivent produire en France. Il y a une usine avec 2000 salariés. Donc, le cas Alstom, c'est pas le cas de l'industrie en tant que telle. C'est-à-dire, après, il y a eu des erreurs. C'est qu'effectivement, Alstom, c'est que des TGV. Aujourd'hui, on a, en termes de TGV, on a un marché mature en France. C'est compliqué de refaire des TGV en France. Et donc, il fallait sans doute un peu plus se diversifier.
Dominique Ménard.
Ça veut peut-être dire qu'il faut reconsidérer ce qu'on nous raconte depuis une vingtaine d'années. Vous savez, le fait qu'il faudrait absolument protéger les personnes et plus du tout les emplois, qu'il faut au contraire laisser les emplois partir, parce qu'il y a des emplois désuets qui ne servent plus à rien et donc il faut aller vers d'autres plus intéressants. Bon, mais parfois les plus intéressants ne se créent pas. Et donc moi, je pense qu'on a été beaucoup trop loin dans cette affaire de faciliter les licenciements, faciliter les ruptures à tout prix, et qu'il faut peut-être revenir, reprendre le débat sur cette question et se dire qu'on devrait maintenant peut-être un peu plus protéger les emplois, tout simplement.
Alors, une toute dernière question, elle s'adresse à vous, Éric Heyer, et elle est vaste, et vous n'avez que quelques secondes pour y répondre. Évidemment, c'est la règle du jeu, toujours à la radio. On a fait un peu l'état des lieux, on essaye de faire des prévisions, vous le faites, dans l'économie française en 2017, ce livre de l'OFCE, mais que vaut vraiment la prévision en économie? On l'a vu depuis tout à l'heure, il y a des choix qui sont faits, qui sont difficiles, etc. Comment savoir pour nos auditeurs, parce que, on a fait une émission aujourd'hui, les éditeurs l'auront compris, certains points de vue sur la situation économique. J'aurais pu en faire une tout à fait différente. Qu'est-ce que ça vaut, sa prévision en économie?
Oui, c'est un art extrêmement compliqué. D'ailleurs, on parle de prévision, mais on pourrait peut-être dire des scénarios. C'est-à-dire que globalement, à très court terme, on peut peut-être essayer de prévoir certains indicateurs, parce qu'on a des petits outils qui nous permettent de
le dire. Il y a quand même des logiques, des enchaînements, vous l'avez dit tout à l'heure.
Donc, à un, deux trimestres, c'est des prévisions. Bon, on peut se tromper déjà à deux trimestres. On voit bien que sur le moyen terme, enfin en tout cas sur deux ans, c'est plutôt des scénarios. Donc il faut avoir, on a quand même quelques grandes tendances de productivité. Et ensuite, moi je crois à la politique économique. Et donc c'est une vision de quel impact de cette politique économique sur la croissance. Et donc c'est ça qui nous permet de faire des prévisions.
Espérons qu'il en sera question dans la campagne présidentielle à venir. Merci à tous les deux d'être venus au micro de Dimanche et Après. Last Shadows Puppets, Bad Habits, c'est un choix tout à fait, empirique par Philippe Baudouin et moi-même. On a bien aimé ce morceau de ce groupe qui, nous dit-on, révolutionne le rock anglais. Voilà, Jeremy Corbyn, le dirigeant du Parti travailliste en Angleterre, a été réélu hier malgré l'opposition d'une majorité des députés de son camp. Il a été réélu et bien réélu avec 61,8% des militants contre l'avis de 80% des parlementaires quand même qui rejettent cette figure de gauche prompte à enterrer le blairisme. Peut-être ont-ils peur d'être enterrés eux-mêmes. Reste maintenant à recoller les morceaux d'un parti qui a usé beaucoup de force depuis le Brexit dans cette guerre intestine et a laissé le champ libre à la nouvelle Première ministre conservatrice Theresa May. Le congrès travailliste qui se déroule à Liverpool jusqu'au 28 septembre va-t-il permettre au Labour de trouver un modus vivendi? C'est la question qu'on avait envie de poser avec John Henley qui est au téléphone. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste au Guardian. Alors tout d'abord, sur ce résultat de Jeremy Corbyn, c'est une surprise cette réélection ?
Non, Pas du tout. C'était plus ou moins prévu. C'est-à-dire, il a mené une campagne très efficace. On a beaucoup qui disent qu'il est plus efficace quand il s'agit de mener campagne que de gérer son parti. C'est un peu là le problème que rend les députés travaillistes avec Jeremy Corbyn. Mais non, c'était largement prévu.
Et pourtant, il avait contre lui ce qu'on pourrait appeler tout l'establishment du Labour. Je l'ai rappelé, ces parlementaires qui ont démissionné. On peut rappeler aussi la démission massive de ce qu'on appelle le Shadow Cabinet, le cabinet fantôme. Ce sont ces ministres alternatifs, en quelque sorte, qui sont réunis par le leader de l'opposition en Angleterre. Voilà, il y avait quand même des vents mauvais qui soufflaient contre Jeremy Corbyn.
Exactement, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le chef du parti, le leader du parti travailliste, est élu par les adhérents. Et les adhérents sont très largement derrière Jeremy Corbyn. Ça, il faut peut-être expliquer un petit peu. Je ne sais pas à quel point ça a été, c'est connu en France. En fait, le parti travailliste britannique, il avait jusqu'à l'année dernière environ 250 000 adhérents. Il a aujourd'hui, grâce à une sorte de recrutement massif lancé en première place par Ed Miliband, donc le prédécesseur de Jeremy Corbyn, mais soutenu et vraiment très bien compris, le Jeremy Corbyn et son entourage ont très bien compris les possibilités dans ce nouveau programme de recrutement d'adhérents. Et donc, le parti travailliste a maintenant 550 000 adhérents. C'est le plus grand parti politique en Europe en termes d'adhérents. Et ils sont massivement derrière Jeremy Corbyn. Et il faut aussi souligner en fait que parmi les anciens adhérents, donc ceux qui étaient adhérents et militants du parti avant 2015, 63% ont voté contre Corbyn. Donc c'est surtout les nouveaux adhérents qui sont surtout des jeunes. Bah, en fait, c'est beaucoup de jeunes, mais aussi beaucoup de vieux de la vieille, de la gauche qui ont été un peu désabusés, qui ont perdu le contact et perdu la foi dans le parti pendant les années de Tony Blair et Gordon Brown, etc., qui sont revenus. Et c'est surtout grâce à eux que Jeremy Corbyn a été élu.
Alors, John Hanley, si on fait aussi un petit peu de politique politicienne anglaise pour comprendre cette réélection de Jeremy Corbyn, on pourrait dire aussi que voilà, il avait en face de lui un adversaire peu charismatique, Owen Smith, mal connu, qui en plus est une espèce de pâle copie, si j'ai bien compris, de Jeremy Corbyn, mais un peu plus compatible, on va dire, avec les aspirations des autres travaillistes.
Oui, c'est vrai. C'était pas vraiment un challenge très réaliste.
Et sur les motivations aussi qui ont amené ces députés, voilà, on a l'impression qu'ils sauvaient un petit peu leur peau, ces députés travaillistes.
Le cas, ces députés, donc les 172, je pense, qui ont
voté la motion de défiance.
Sur
230.
Plus confiance, voilà, sur 260. Donc vraiment une grande majorité. Leur problème, c'est que, et c'est la division au cœur du parti travailliste en ce moment, c'est entre ceux qui trouvent que l'essentiel, c'est d'avoir un parti d'opposition capable de gagner une élection. Ça, c'est les députés. Le leadership du parti et la base, les nouveaux adhérents, qui trouvent que je simplifie un peu, mais qui trouvent que c'est plus important de reconstruire à partir d'une nouvelle base, de vraiment créer un mouvement, et que voilà, que ça c'est
mais c'est une situation qu'on connaît ici en France,
que le pragmatisme, le réalisme.
John Hanley, vous qui connaissez bien la France, on pourrait dire que c'est l'opposition entre ce que François Hollande appelle la gauche réaliste et une gauche qui est toujours plus belle dans l'opposition, a-t-il dit récemment, qui préfère être dans l'opposition systématique, quitte à ne pas accéder au pouvoir. On peut faire un parallèle comme ça entre la France et l'Angleterre.
On peut tout à fait faire ça. On pourrait même dire, oui, ça serait un peu exagéré, mais on pourrait dire Mélenchon contre Macron. C'est un peu ça. C'est un parti de, c'est les blairistes, donc ceux qui ont, ceux qui rappellent constamment que Tony Blair, c'est un premier ministre travailliste qui a gagné 3 élections consécutives, qui a certes fait des erreurs, mais qui a fait quand même beaucoup pour en termes de social, etc. En Grande-Bretagne, qui a fait avancer beaucoup la cause des travailleurs, des moins favoris en Grande-Bretagne, et ceux qui disent que non, ce qui compte c'est la foi, c'est l'idéologie,
Alors justement, Jeremy Corbyn, dans son discours de victoire, a parlé de faire table rase du passé. Est-ce qu'il parlait des querelles intestines ou est-ce qu'il parlait du New Labour de Tony Blair?
Ça, c'est toute la question. Il a parlé pendant la campagne, il y a eu des menaces contre des députés blairistes qui ont critiqué ouvertement.
Ouais, on parle de purge,
la stratégie, exactement. Et ils ont été menacés d'être désélectionnés dans les prochaines élections.
Mais pas être investi pour les prochaines élections.
Exactement, pour les prochaines élections. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir réunir ce parti. Je ne sais pas à quel point c'est possible. Je pense qu'il n'y aura pas de division formelle, hein, de scission.
Oui, parce qu'on en parle, je lisais un article dans le Guardian, justement, votre journal aujourd'hui, qui disait, voilà, il y aura peut-être une recomposition avec les Lib Dems, les libéraux démocrates, qui pourraient s'allier, on va dire, à l'aile droite du Labour, et à une gauche, qui surferait sur cette victoire de Jeremy Corbyn.
Et ouais, je pense qu'il y a effectivement quelques députés qui pourraient être tentés par ce genre de stratégie, mais il n'y aurait pas, de nouveaux partis. Le système électoral britannique est vraiment très très difficile pour les nouveaux partis, pour les petits partis. On peut
Est-ce que ça pourrait faire une majorité
l'UKIP qui a depuis des années maintenant a marqué des scores très 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 forts dans plusieurs élections. Ils ont toujours qu'un seul député.
Donc le UKIP qui est ce parti europhobe, eurosceptique plutôt, de Nigel Farage. Si on continue un petit peu à décortiquer cette victoire de Jeremy Corbyn, pardon, à la tête du New Labour, on peut s'interroger, vous l'avez dit, sur une scission possible. On peut aussi s'interroger sur la peur qui habite les travaillistes de voir se reproduire une période qui a perdu du début des années 80 jusqu'au milieu des années 90, où finalement ce sont les Tories, les conservateurs qui ont, avec Margaret Thatcher, John Major, on s'en souvient, tenu le devant de la scène politique, tenu le pouvoir en Angleterre. Il y a ça aussi qui joue en ce moment dans ce congrès qui se passe à Liverpool.
Vous avez complètement raison. Il semble-t-il une sorte d'inévitabilité que le parti travailliste est, une fois qu'il a perdu, est obligé de passer deux ou trois élections en opposition avant que les électeurs britanniques décident d'encore une fois faire confiance dans le socialisme ou dans la social-démocratie, comment on veut le nommer. C'est un vrai danger, et je pense que moi personnellement je pense que le plus grand danger pour le parti en ce moment, c'est que tous ces militants qui ont travaillé depuis des années pour le parti travailliste, ils risquent tout simplement, et qui se retrouvent pas du tout dans les idées de Jeremy Corbyn et les militants qui soutiennent Jeremy Corbyn, qui vont tout simplement dire, écoutez, là on va pas être réélu pendant, ça va être peut-être 2, peut-être 3, ça va peut-être pas avant 2030 qu'on sera de nouveau.
Oui, c'est sûr que ça fait loin.
Simplement abandonné. Et là, ça pourrait être, ça c'est ça plutôt qui pourrait mener à la disparition, mais
une sorte de scission.
Oui.
John Henley, vous occupez des affaires européennes pour le Guardian. Évidemment, il y a un peu l'ombre du Brexit qui pèse sur tout ça. On sait que il a été reproché à Jeremy Corbyn de pas avoir assez mouillé la chemise en faveur du Remain, du maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. On voit que parallèlement, Theresa May, la première ministre britannique, a donné un violent coup de barre à droite récemment. politique, réforme de l'éducation en faveur des très sélectifs grammar school, refus d'accueil des réfugiés, discours très musclé sur l'immigration, peut-être sous pression du UKIP. Très rapidement, est-ce que vous diriez qu'on vit là aussi cette radicalisation de la politique anglaise, les suites politiques du Brexit ?
Complètement. Et ça, c'est le deuxième grand danger de cette faiblesse actuelle du parti travailliste qui se déchire et qui s'est déchiré pendant toute une année. Il n'y a pas eu d'opposition efficace au gouvernement. C'est le premier rôle du parti de l'opposition. C'est vraiment de faire de l'opposition. Ils n'ont strictement rien fait et surtout pas au Brexit. En partie parce que Jeremy Corbyn lui-même n'a jamais été trop convaincu
Par l'Europe, évidemment.
Il n'a jamais été un Européen convaincu.
Merci beaucoup, John Henley, d'avoir été avec nous depuis l'Angleterre, depuis Londres. On peut vous lire dans Le Guardian. Je voulais remercier également Philippe Baudouin, qui était à la réalisation aujourd'hui, Nicolas Slimani à la technique, et Antoine Dulster, qui m'a aidé grandement à préparer cette émission. Vous pouvez réécouter, podcaster le Dimanche Après sur franceculture.fr à la page de l'émission Dimanche Après, évidemment.